Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la grande table d'été et c'est la dernière.
Ah, les éditeurs sont fous. Fous, complètement fous. 318 romans. Est-ce que cette multiplication de livres va de pair avec une amélioration de la qualité des livres? Je dis non.
Cette dernière émission de la Grande Table d'été en deux parties, un thème commun et imprévu a fait son apparition, comme ça arrive souvent, et ce thème, il se trouve que c'est le papier. En première partie, avalanche de papier, une table ronde autour de la rentrée littéraire en partenariat avec le journal Le 1. Entre août et octobre, pas moins de 567 romans paraissent, 567 romans qui seront imprimés, reliés, publiés, puis installés en librairie. On essaye de vous aider à y voir un peu plus clair avec deux critiques littéraires et une libraire qui vous donnent leurs conseils de lecture. En seconde partie de la Grande Table, c'est la fin du papier, nous faisons le portrait de l'auteur de bande dessinée Manu Larsenet qui fait ses adieux au dessin sur papier dans le cadre d'une exposition à la galerie Barbier et Maton à Paris. Bonjour Raphaël Léris.
Bonjour Romain-Luc Delièvre.
Vous êtes journaliste et critique littéraire au Monde. Bonjour Perrine Ablin.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie Le Genre Urbain à Paris dans le 20e. Et bonjour Julien Bisson.
Bonjour Romain.
Vous êtes rédacteur en chef du journal Le 1 et vous êtes aussi directeur de la revue America. Je vous propose qu'on commence par une archive.
Mais on s'en sortira de cette pléthore de bouquins au mois de septembre. Mais il faudra bien qu'on s'en sorte.
Mais je vous ai expliqué, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut toujours dire, on va en publier beaucoup moins, mais alors là, nous prenons, ça serait très...
Non, on va les étaler.
Personne ne s'entend et tout le monde pense faire mieux que le voisin. Il n'y a pas à sortir de là. Si on publie moins, si on met la barre plus haut, si vous voulez, et si on dit non de temps en temps à des écrivains, on risque gros, on risque de les stériliser, on risque de les dégoûter. Et si vous saviez le nombre de livres, d'auteurs déjà connus, quelquefois consacrés, ayant publié beaucoup de livres, que nous refusons, nous et des tas d'autres éditeurs, vous savez, là je ne peux naturellement citer aucun nom, vous diriez, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, c'est la voix de François-Régis Bastide, qui était responsable de la publication des éditions du Seuil en 1976, et dans cette archive, on a l'impression qu'il a l'air de dire que c'est beaucoup, mais que ça pourrait être pire. Comment vous recevez cette archive-là, Raphaël Léris?
Alors, de facto, c'est pire, et ça l'a été beaucoup plus qu'aujourd'hui. En 2007, je crois que le pic était à 700 livres, il me semble, pour la rentrée littéraire. Je le reçois comme la preuve d'une belle tradition, presque aussi belle que la rentrée, c'est de s'en plaindre.
C'est vrai, c'est une tradition aussi de s'en plaindre.
Bon, je crois, oui. Enfin, les éditeurs se plaignent de publier trop de livres, ce qui est quand même amusant. Les journalistes qui adorent ça par ailleurs se plaignent d'en recevoir trop. Les libraires, alors eux qui physiquement sont quand même plus atteints par la surproduction, puisqu'il y a un effet de poids de la chose. Mais j'imagine que pour vous aussi, c'est une grande excitation.
Perrine Ablin.
Ah oui, c'est un peu Noël avant l'heure. C'est vrai qu'au moins on a l'embarras du choix, mais on fait déjà un tri au moment de l'office de l'arrivage des livres. Donc ça, c'est vrai que malheureusement, on est obligé de mettre de côté un certain nombre d'ouvrages. Donc ça, c'est un problème. Mais je pense que c'est aussi pour des raisons économiques qu'il y a autant de livres qui paraissent à la rentrée. Donc c'est bon pour la librairie aussi.
Julien Bisson, comment vous recevez cette tradition de la rentrée littéraire, vous?
Je reprends ça à une phrase que m'a dit Pierre Lemaitre il y a quelques années quand il est fait paraître Au revoir là-haut. Et je me demandais si la grande guerre de la rentrée littéraire était comparable à celle des tranchées. Il m'a dit non, il y a une grande différence. C'est que dans la tranchée, tous ceux qui sortaient de la tranchée avaient presque tous une chance égale de mourir ou pas. Alors que dans la rentrée littéraire, il y en a qui sont déjà morts, déjà dans la tranchée. C'est malheureusement, il y a 567 livres qui paraissent et tous n'auront pas leur chance. Tous n'auront pas la même chance d'arriver à se faire avoir une place au soleil pendant la rentrée. Donc je crois que c'est quand même un exercice très cruel. Vraiment, quand on en parle avec les écrivains, c'est pour eux, c'est toujours vraiment une épreuve. Ils la redoutent avant qu'elle arrive, elle est difficile pendant qu'elle est là. Et puis il y a quelques-uns qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, mais pour leur grande majorité, c'est rarement un très bon souvenir. Donc on parle des journalistes, des éditeurs, des libraires, mais du côté des écrivains aussi, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre.
Et parmi le maelstrom donc de tous ces livres qui sont publiés, vous avez chacun opéré votre sélection, parce qu'on peut, c'est forcément une sélection à chaque fois. Et il y a cette pratique que moi, enfin, je trouve intéressante, qui est celle du conseil de lecture. Vous, finalement, vos métiers consistent à conseiller des livres tout le temps. Enfin, vous, Perrine Blin, c'est votre métier en tant que libraire.
Oui, et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, nous, on va pouvoir effectivement peut-être sauver quelques livres au moment où ils sortent de la tranchée. Mais oui, c'est les conseils de lecture au moment de la rentrée littéraire. Il y a deux choses qui sont importantes. Alors, il y a d'abord les auteurs, les grands auteurs très attendus, qu'on a plaisir à retrouver, mais qu'effectivement, qui n'ont pas toujours besoin de nous, libraires. Et il y a les auteurs peut-être moins connus ou des petites maisons d'édition qui vont jouer aussi, qui vont miser sur des auteurs peu connus. Et ça va être notre rôle à nous aussi de les faire découvrir au public.
Un rôle de passeur.
Exactement. Donc ça, le conseil du libraire, je pense qu'il est très important personnellement et puis pour les auteurs aussi.
Et est-ce que la fréquentation des librairies est vraiment effective, enfin, l'effet rentrée littéraire se ressent dans la fréquentation des librairies ?
Oui, c'est très attendu. C'est toujours très attendu. Ouais, c'est encore une fois un peu Noël avant l'heure. Ouais. Et puis c'est grâce à la presse, il y a quand même beaucoup de prescriptions, donc les gens attendent ça avec impatience. Et puis c'est vrai qu'ils retrouvent aussi des auteurs qui suivent tous les ans, qui vont retrouver à la rentrée littéraire.
Il y a une forme de fidélité à certains auteurs,
ouais,
aussi en
tout
particulier.
À fait.
Bon, moi je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Julien Bisson, vous êtes rédacteur, je le disais, de la revue America. Parmi cette rentrée littéraire, il y a un certain nombre de romans américains qui sortent en littérature étrangère. Et dans les grands noms de grands auteurs américains, il y en a un certain nombre qui ressortent. Je pense notamment à Richard Powers.
Oui, Richard Powers, c'est l'un des très grands écrivains américains contemporains. On l'a découvert notamment avec Le temps où nous chantions, qui est, je crois, l'un des meilleurs romans américains de ce début de siècle. La chambre aux échos, Générosité, Gain. Il y a vraiment, c'est vraiment une œuvre qui se construit au fur et à mesure et une œuvre qui se distingue de toutes les autres parce que Richard Powers est le grand écrivain qui parvient à concilier la fiction avec des univers qui, a priori, n'ont rien à voir avec la fiction, que ce soit les technologies, la science, l'économie. Dans tous ses livres, il essaie d'arriver à rendre sensible, à rendre compréhensible par le lecteur des thématiques qui sont, a priori, assez complexes. Et dans son nouveau roman, qui sort dans quelques jours, qui s'appelle L'Arbre-Monde, là, il rentre dans une autre dimension qui est celle de l'environnement. Alors, L'Arbre-Monde, c'est un petit peu, vous savez, la vie secrète des arbres. Vous vous souvenez de ce livre de Peter Wohlleben qui avait eu un très grand succès. Et bien, c'est un peu la vie secrète des arbres, mais cette fois-ci avec le génie de Powers, c'est-à-dire sa faculté, sa capacité à mettre cela en fiction, à voir des personnages qui intègrent toutes les dimensions de cette vie des arbres. Alors, on va suivre une dizaine de destins individuels qui seront chacun mêlés avec ceux des arbres. Alors, on va d'ailleurs rencontrer des arbres, des châtaigniers, des séquoias, on va en croiser beaucoup. Mais avec cela, autour de cette histoire, de ces histoires d'ailleurs, Richard Powers nous incite à repenser notre regard sur le monde à la lumière des arbres et à la lumière du temps des arbres. C'est-à-dire, à un moment, il parle de la catastrophe écologique, il dit la catastrophe écologique est imminente. Est-ce qu'elle est imminente pour les hommes? Peut-être pas, mais à hauteur d'arbre, à hauteur de vie d'un arbre, oui, la catastrophe écologique est imminente. Et donc c'est un livre tout à fait passionnant, un livre qui nous apprend beaucoup sur les arbres, pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu La vie secrète des arbres, mais qui surtout nous fait rendre palpable ce lien entre l'homme et la nature que peut-être on a perdu et qu'on essaie de retrouver.
Vous, Perrina Blin, parmi les sélections de romans américains que vous nous avez proposés, il y a ce livre « La femme à part » de Viviane Gornick, qui est publié aux éditions Rivage.
Est-ce que oui, vous pouvez tout nous en fait. Viviane Gornick, c'est une auteure américaine extrêmement connue aux États-Unis et qui n'avait jamais été publiée en France jusqu'à l'année dernière, où les éditions Rivage ont sorti donc un volume de ses récits autobiographiques. Hein. Je crois que c'était « Attachement féroce » où elle racontait sa relation parfois conflictuelle avec sa mère. Et j'étais totalement passée à côté de cet ouvrage, alors même qu'il avait eu quand même un très grand succès. Et cette année, je me suis dit, non, je vais me lancer dans son nouveau roman là, qui est publié par Rivage, donc « La femme à part ». Et je suis totalement tombée amoureuse de cette femme qui est d'une intelligence remarquable et qui nous entraîne en fait au cours d'une longue déambulation à travers les rues de New York. Elle va évoquer ses souvenirs, ses observations sur la ville, et toujours de manière extrêmement intelligente et avec une justesse incroyable, elle évoque l'amour, l'amitié, la vieillesse, la solitude. Et ce que j'ai trouvé extrêmement touchant dans ce récit autobiographique chez cette femme, c'est qu'elle est à la fois, elle ressent une forme de très grande désillusion et en même temps un amour inconditionnel de la vie. Et il y a cette espèce de contradiction permanente qui lui permet, elle a une forme de sensibilité à vivre qui lui permet de poser sur le monde et sur les gens un regard qui est à la fois tendre et désespéré. C'est absolument bouleversant et c'est vrai qu'on sort de ce livre en ayant l'impression d'avoir rencontré à New York une amie perdue de vue de longue date et avec laquelle on aurait évoqué tout ce qui fait le sel de la vie. C'est vraiment un très beau roman.
Raphaël Léris, vous connaissez les textes de Viviane Gornick ?
Oui, alors je suis en train de commencer La femme à part, mais j'avais adoré Amy à la une du monde des livres, Attachement féroce, qui a été un éblouissement pour moi, la découverte d'un univers gorgé d'ironie, de tendresse, vraiment un très 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 grand livre, et je suis tellement heureuse qu'elle vienne là pour le Festival America, qui
sera à la rentrée,
qui est à partir du 20 septembre à Vincennes, et qui explique beaucoup de la présence de la littérature américaine dans cette rentrée, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs américains qui viennent en France, qui est quand même toujours une joie. Je connais et j'aime beaucoup Viviane Gornick.
Vous, dans votre sélection, vous avez proposé Nicole Krauss et Forêt obscure,
voilà,
aux éditions de l'Olivier.
Donc on parle à nouveau d'arbres. Alors bon, c'est plus métaphorique chez Nicole Krauss que chez Richard Powers. La forêt, c'est un peu l'endroit où on ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. C'est un roman que je trouve absolument virtuose, qui nous parle de l'incertitude du monde à travers les trajectoires parallèles de deux personnages, un homme d'affaires très riche qui disparaît et par ailleurs une femme auteure, Nicole, dont le mariage ne va pas très bien, le mari non plus, et qui part en Israël où elle a passé beaucoup de vacances. Et à travers ces deux trajectoires, c'est une interrogation à travers la figure de Kafka de ce qui nous constitue, de ce que c'est qu'une identité floue. Et pour moi, c'est d'une originalité et d'une force assez remarquables.
Comment expliquer la fascination pour les auteurs américains, en tout cas en France et au-delà des manifestations telles que le Festival America? On a l'impression qu'il y a un peu une surreprésentation des écrivains américains parmi la littérature étrangère dans la rentrée. Julien Bisson.
Je ne crois pas que ce soit propre à la littérature, c'est une surmanifestation de la culture américaine en général.
C'est la même qu'au cinéma.
La même au cinéma, la même qu'en musique. Donc la littérature ne fait pas exception de ce point de vue-là. Maintenant, il est vrai que quand bien même on aime tous et on apprécie tous des romanciers venus de tous les continents, la présence américaine reste très très forte chez les éditeurs pour des raisons qui sont des raisons aussi bien artistiques que commerciales. C'est vrai qu'il est souvent plus facile, j'imagine, pour des libraires d'arriver à vendre des livres qui se passent à New York plutôt qu'un livre qui se passe à Manille. Il est plus souvent plus facile d'arriver à s'identifier à ces paysages qu'on croit connaître, même quand on ne les connaît pas, que ceux qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et puis, la force de l'habitude fait aussi que on connaît des écrivains américains, donc on va continuer à suivre des écrivains américains. Il faut pouvoir s'habituer à découvrir une autre forme de littérature pour qu'elle ensuite trouve vraiment sa place commercialement. Quand on a commencé à s'habituer au polar nordique, maintenant j'ai l'impression que le polar nordique a permis d'instituer un paysage littéraire qui fait que c'est, il nous est aujourd'hui familier. pour la littérature américaine, il se trouve que le paysage littéraire américain nous est familier depuis un siècle.
Oui, je pense qu'il y a aussi quand même une accessibilité de la langue, tout simplement. Mmh. Je pense que c'est beaucoup plus facile de traduire de l'anglais que de l'islandais. Donc je pense qu'il y a aussi cette raison-là qui entre en ligne de compte.
Vous le percevez, cet engouement pour la littérature américaine, Perrine Ablin ?
Oui, c'est vrai qu'on en a... Je pense, oui, c'est vrai que c'est le deuxième rayon qui se vend le mieux après la littérature française, hein, la littérature américaine. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une curiosité pour la littérature étrangère en général, de plus en plus.
Donc, dans votre sélection, vous nous avez proposé Morunga, le roman de Horacio Castellanos Moya aux éditions Métayer. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, j'adore cet auteur.
C'est un salvadorien.
J'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé son précédent roman, donc, qui s'appelait Le rêve du retour. Et là, je l'ai retrouvé avec un très vif plaisir. Alors, Horacio Castellanos Moya, c'est effectivement un auteur salvadorien qui est exilé aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et il utilise toujours dans ses romans des personnages d'exilés salvadoriens, d'ailleurs. Et donc là, on a deux personnages. L'un est un ex-guérillero qui est désormais chauffeur de bus et qui tente plus ou moins vainement de réprimer son tempérament violent et ses pulsions d'homme d'action. Et l'autre personnage est un professeur d'espagnol qui fait une recherche universitaire sur l'assassinat du poète salvadorien Roque Dalton, et donc il va être amené à éplucher les archives de la CIA à Washington, et évidemment le destin de ces deux hommes va se croiser de façon très explosive. On a affaire à deux personnages qui sont hantés par la guerre, qui sont des personnages totalement inadaptés, paranoïaques, solitaires. Et en fait, ce qui est génial quand on a accès à l'intériorité de ce type de personnage, c'est qu'il n'y a pas de filtre dans la manière dont il regarde la réalité. Et donc, il y a une critique de la société américaine qui est assez géniale et qui est faite avec un cynisme absolument réjouissant. Et donc, ils sont totalement en porte-à-faux avec cette société, parfois un peu puritaine, obsédée par les armes à feu, par la surveillance des citoyens. Et c'est surtout le style, en fait, de Castellanos Moya qui est vraiment corrosif, il a un humour à froid tellement décapant, qui fait vraiment de cette lecture un pur plaisir. Et il faut souligner aussi que la traduction est excellente. Aux éditions Métellier, ils ont toujours des traducteurs incroyables. Et là, une nouvelle fois, c'est à noter.
Puisque la période de la rentrée littéraire, c'est une période où tout le monde ronchonne, je vous propose qu'on en écoute un en particulier.
Un écrivain qui reçoit un prix, à mes yeux, il est déshonoré. Déshonoré.
Je crois que vous exagérez.
Déshonoré.
Maintenant, il n'est pas déshonoré parce qu'il le reçoit.
Déshonoré.
Il peut être à la rigueur déshonoré parce qu'il demande à recevoir.
Non, même le recevoir déshonoré.
Mais pourquoi ?
Déshonoré parce que je suis de l'avis de Maupassant qui disait un écrivain ne doit être ni décoré ni de l'Académie française. Si vous n'êtes pas écœuré aujourd'hui, en 1950, enfin, et depuis 2 ou 3 ans, de la multiplicité des prix.
Non, je ne suis pas écœuré, je constate qu'il y en a beaucoup.
C'est à vomir, mais non, c'est à vomir.
C'est la voix de Paul Léoto, un enregistrement qui date de 1951, déjà en 1950, tout allait mal, qui refuse toute forme de prix et toute forme d'honneur. Les prix littéraires sont commandes, évidemment, à la rentrée littéraire. C'est parce que les prix sont décernés en novembre que beaucoup de romans sortent au mois de septembre. Et parmi les cas de gens, d'auteurs qui ont déjà reçu des prix, il y en a un qui ressort dans cette rentrée, c'est Jérôme Ferrari, qui a déjà reçu le Goncourt avec un livre et qui nous revient, avec Le Sermon sur la chute de Rome, pardon, et qui nous revient avec un nouveau roman qui s'appelle À son image. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Raphaël Léris ?
Ouais, c'est un roman absolument splendide qui nous emmène dans la vie d'une photo-reporter corse qui meurt dans les premières pages. Sa voiture va dans un ravin et le roman dure le temps de la messe de son enterrement qui est dite par son oncle, qui est un prêtre avec qui elle avait un rapport très proche. Et Jérôme Ferrari, moi ce que je trouve toujours sidérant, c'est la beauté de la langue et l'intelligence narrative qu'il met pour décrire la bassesse humaine, qui n'est pas celle de sa photoreporter, qui est celle de son entourage, du nationalisme médiocre dans lequel baigne son monde. Elle est la petite amie pendant des années d'une petite gloire locale du nationalisme corse.
Du FLNC.
Voilà, elle, elle part faire un reportage, comme elle a toujours rêvé d'être vraiment reporter et qu'elle en a marre à un moment donné de prendre des photos d'anniversaire de mariage, elle part couvrir la guerre en ex-Yougoslavie et en fait pour elle c'est insupportable de montrer ces images pour que les gens se repaissent de la violence. Et donc voilà, pour moi, donc Jérôme Ferrari, je pense qu'il pourrait me raconter n'importe quoi, la splendeur qu'il met pour parler de choses dont on parle assez peu, voilà, qui sont notre médiocrité, notre amour de l'abjection, voilà, je trouve ça fascinant. Et juste pour parler de tous ces prix qui se multiplient dans ce plénier,
qui se multiplient déjà dans les années 50.
Voilà, on pour ajouter au prix au Monde des livres, enfin au Monde, on a un prix littéraire qui sera remis le 5 septembre, et on s'est beaucoup demandé est-ce que on met Jérôme Ferrari sur la liste parce que quand même il a déjà eu le Goncourt, et en même temps c'est pas comme si on avait des dizaines d'écrivains de la valeur de Jérôme Ferrari, et Dieu merci, à 50 ans on va pas considérer que Jérôme Ferrari, son œuvre est derrière lui. Ben non, il nous montre à chaque fois qu'elle est encore devant lui et qu'elle est admirable.
Périna Blin, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce roman de Jérôme Ferrari à son image?
C'est un nouveau chef-d'œuvre. Il est à la fois sombre et somptueux. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs romans là que j'ai lu de la rentrée, effectivement. Et en fait, à travers ce personnage d'Antonia, il va retracer en fait l'histoire du photoreportage de guerre au XXe siècle, et il nous montre vraiment à quel point l'œil de la photographie scrute les tréfonds de l'âme humaine, et effectivement toutes ces bassesses, toute la lâcheté qu'on peut y voir. Donc c'est très sombre, et en même temps il y a cette force de l'écriture. Enfin, le livre est très beau, et je pense que c'est la difficulté dont je parlais tout à l'heure, que c'est un livre qui est très difficile à résumer parce qu'il est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, et tout résumé ne rend pas justice en fait à la beauté de ce livre. Voilà.
Est-ce que c'est pas avant tout une affaire de langue ou de style? Enfin, que Jérôme Ferrari aurait un style qui est reconnaissable assez rapidement.
La construction du livre est extrêmement bien maîtrisée. En fait, tout est parfait. Il n'y a pas de... il y a le style, effectivement. On est emporté par la langue. Mais c'est aussi, je crois, la manière dont il construit le récit qui est vraiment maîtrisée. Je ne sais pas...
Sa langue est plus simple que dans Le Serment sur la chute de Rome. Des phrases moins longues... qui était assez sidérante, oui, dans Le Serment sur la chute de Rome. Donc là, il me semble qu'il les fait un peu plus courtes, mais ça n'enlève pas la beauté. Et ce que je trouve incroyable chez lui, c'est cette capacité à injecter un humour à froid très très sombre dans une description très très tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Mais il a une drôlerie aussi qui se glisse là-dedans, qui est assez fascinante.
C'est vrai que je le trouve plus accessible celui-ci que même le précédent, Le Principe, dans lequel qui était un peu difficile, ouais, où la langue était un peu ardue. Là, je pense qu'il peut toucher un public vraiment très large.
Julien Bisson, parmi la rentrée française, quels sont les romans qui vous ont marqué?
Moi, j'ai beaucoup aimé le livre d'Adrien Bosque, Capitaine, qui revient sur une autre traversée. On avait une traversée atlantique en avion avec dans Constellation, et cette fois c'est une traversée atlantique en bateau sur le capitaine Paul Lemerle, où sont retrouvés échoués de nombreux artistes, notamment qui fuyaient la France, la France de Pétain, parmi lesquels Claude Lévi-Strauss, André Breton, la photographe Germaine Krull, la romancière Anna Segers, les peintres André Masson, Wilfred Olam. Il raconte de façon très documentée toute cette traversée avec ces artistes, mais surtout il s'interroge beaucoup dans ce livre sur la reconstitution justement du voyage, la reconstitution des faits et la réflexion même sur les liens entre la fiction et la réalité. Le livre se termine d'une certaine façon, se termine presque avec une phrase d'Edouard Glissant où il dit « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et véritablement, il y a ce projet-là. Et à travers ces artistes, il s'interroge aussi comment est-ce que ces différents artistes eux-mêmes ont essayé de capturer le réel pour essayer d'en produire une œuvre vraie. C'est un livre qui va passionner par son aspect historique. Il y a aussi des parallèles avec les migrants d'aujourd'hui qui sont jetés sur les bateaux à travers la Méditerranée, mais aussi sur un aspect aussi un peu plus théorique sur les liens entre réalité et fiction.
Et c'est publié chez
Stock. C'est publié chez Stock.
Périna Blin, parmi la sélection de livres que vous nous avez envoyés, il y a le roman de Fanny Taillandier, Par les écrans du monde, qu'on a reçu la semaine dernière, et Bertrand Schaeffer, Série noire, qui sont deux romans qui, je trouve, ont pour particularité d'interroger la place du récit, et en tout cas interroge la question du récit en lui-même.
Oui, ça, tout à fait. Il y a le roman de Fanny Taillandier, pour moi, est une vraie découverte. J'ai trouvé ce livre vraiment fabuleux, très intéressant. Il déroule en fait la journée du 11 septembre 2001 à travers le point de vue de trois personnages à la personnalité complexe et contradictoire. Donc il y a Lucie qui est mathématicienne et qui va se retrouver ensevelie dans les sous-sols du World Trade Center. Son frère William qui est un vétéran de l'US Air Force et qui doit ce jour-là surveiller le ciel. Et dans le ciel, il y a Mohamed Atta qui est donc l'un des terroristes qui a pris le contrôle d'un avion qui va rentrer dans une des deux tours. Ce qui est intéressant en fait dans ce livre, c'est que il ne s'arrête pas à l'attentat en lui-même, à l'événement en lui-même. Il va amorcer en fait une réflexion plus générale sur les rapports entre l'image et le pouvoir et sur la manière dont les dominants construisent la réalité par l'image en nous donnant l'illusion que tout est visible, alors même que d'autres récits justement vont qui sont moins visibles vont se heurter à cette réalité officielle et la faire exploser comme la journée du 11 septembre. Et on voit très bien que Fanny Taillandier donc mène toute une réflexion, enfin nous montre que ces images du 11 septembre qui ont quand même généré un niveau de sidération inégalé, s'inscrivent en réalité dans une histoire plus large qui est celle évidemment des guerres au Moyen-Orient
et du terrorisme.
Et donc en fait elle nous montre les rapports de domination qui régissent le monde. Et j'ai été vraiment frappée par la manière très intelligente, très subtile et très maîtrisée dont elle construit le récit en superposant justement les différents points de vue. Elle superpose les points de vue, elle les imbrique les uns aux autres et en même temps elle instille une forme de suspense qui nous tient en haleine, qui nous tient éveillés jusqu'au bout.
Et Bertrand Schaeffer, publié chez POL.
Oui, c'est un livre fascinant, qui m'a beaucoup plu également, et qui raconte ce moment de basculement où ce n'est plus le fait divers qui fait le roman,
et c'est l'inverse.
C'est le roman qui fait le fait divers, puisqu'il nous raconte cet épisode qui avait défrayé la chronique, et dans les années 60, c'est l'enlèvement du fils Peugeot. Bon, moi, je connaissais pas. C'est un peu. Je crois que c'est un événement quand même passé un peu à l'oubli parce que y a eu d'autres crimes beaucoup plus terribles depuis. Mais donc, il nous raconte le parcours de Raymond Roland, donc qui est un jeune ouvrier typographe extrêmement séducteur, qui a une capacité de fascination comme ça sur tous ceux qui l'entoure, qui va rencontrer une reine de beauté du Danemark et qui va faire la rencontre malheureuse pour lui de Pierre Larcher, donc un escroc qui est lui-même fasciné par un roman de la série noire donc américaine, un roman de Lionel White qui s'appelle Rapt, et il va calquer l'enlèvement de Eric Peugeot sur ce roman. Et donc il y a tous les genres s'interpénètrent dans ce livre. Alors en plus on est plongé dans tout le gratin de cette époque, donc les artistes, les réalisateurs, parce qu'il fréquente tous les milieux, le gratin de l'époque. Et donc il y a plein de références comme ça qui se bousculent dans ce livre. On est totalement embarqué par l'histoire et c'est vraiment très très intéressant aussi sur le plan de la construction justement du roman.
Raphaël Léris, si vous avez un dernier livre à conseiller.
Alors, ce serait Un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal, chez Vertical, qui interroge lui aussi beaucoup le rapport entre la fiction et la réalité, puisqu'on suit l'itinéraire d'une jeune femme qui se cherche un peu, qui finit par décider de devenir peintre en décor, c'est-à-dire qu'elle apprend à faire des trompe-l'œil, à reproduire des motifs sur des surfaces planes. Et alors c'est amusant parce que à la fois ça renvoie beaucoup à la question du réel de la fiction, de comment il s'imbrique, mais aussi la phrase que vous citiez de Glissant sur tout est vivant, c'est la découverte qu'elle fait à l'issue de son apprentissage. Donc on suit ses études et puis après pendant 7 ans, Paula Karst va de chantier en chantier jusqu'à la grotte de Lascaux dont elle reproduit un facsimilé. Donc il lui a été demandé de travailler sur un chantier. Donc et tout est vivant parce que tout est imbriqué dans un feuilletage de temps, d'expérience, de lecture. Et pour moi, c'est un roman d'une profondeur extraordinaire.
Elle sera l'invitée d'ailleurs de la Grande Table lundi. Julien Bisson, un dernier conseil.
Ce serait Chien loup de Serge Joncourt, qui est publié chez Flammarion. Serge Joncourt, c'est un auteur que j'adore depuis de nombreux livres, et notamment les derniers, L'écrivain national et Repose-toi sur moi, pour lequel il y avait eu un prix d'ailleurs, prix Interallié. Je pense qu'il n'est pas écœuré du fait d'avoir eu le prix Interallié.
Et déshonoré.
Chien loup, déshonoré. Et Chien loup, ça nous raconte deux histoires en parallèle. L'un, c'est donc ça se passe dans le sud de la France, dans un paysage montagneux assez reculé. D'un côté, pendant la Première Guerre mondiale, un éleveur un dompteur de lions et de tigres qui décide de se retirer dans la montagne avec ses lions et ses tigres pour éviter qu'ils ne soient dépecés, abattus, sachant que le dompteur lui-même est allemand. Et puis de l'autre, aujourd'hui, un couple qui va dans ces mêmes montagnes pour louer un gîte. Et ce couple très parisien, très très connecté, se retrouve dans cet univers qui est beaucoup plus sauvage. Et d'ailleurs, le téléphone ne capte pas. Il y a une scène vraiment très formidable où ils essayent de trouver l'endroit où ça pourrait capter. Ils cherchent, il montre son téléphone comme une télécommande qui pourrait rallumer le monde. Je trouve cette image formidable. Et puis, dans cet espace sauvage, ils vont justement rencontrer d'ailleurs un chien, un chien loup. Et le chien loup, c'est celui qui est entre la civilisation, le civilisé et le sauvage. Et eux-mêmes vont essayer d'explorer ce rapport entre le civilisé et le sauvage, et puis le sauvage qui est le sauvage animal, mais aussi le sauvage du capitalisme moderne. C'est un livre assez formidable, encore une fois, qui confirme tout le bien qu'on peut penser de Serge Joncourt.
Merci à tous les trois, Raphaël, Léris. Je rappelle que le numéro spécial rentrée littéraire du Monde est en kiosque. Perrine Ablin, votre librairie Le Genre Urbain, c'est à Paris dans le 20e. Et Julien Bisson, le numéro spécial du 1 avec le choix des libraires est en kiosque aussi. Vous pouvez aussi retrouver la sélection des 10 romans de la rentrée littéraire, une sélection France Culture en partenariat avec le Nouvel Observateur sur franceculture.fr.
Ok, t'as raison, ça ne me regarde pas.
écoutez France Culture, il est 13h20, on écoute Mathieu Malon avec le titre et ce t-shirt de Sonic Youth. C'est l'extrait du 4e album de Mathieu Malon qui s'appelle Des Amours et qui est sorti sur le label Monopsome. Il sera à Paris le 3 septembre en concert et à Orléans avec sa formation Laudanum le 8 septembre prochain.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Bonjour Manu Larsenet.
Bonjour monsieur.
Une exposition de vos planches a lieu en ce moment à Paris, à la galerie Barbier et Maton, et elle s'appelle Adieu au papier.
L'adieu au papier, ouais.
L'adieu au papier.
Je tiens
il y a un seul
à l'article. Ah bah ouais, par définition.
Il est tout seul. Il est définitif.
Oui, bien sûr, ouais. Oui, j'espère. Enfin, on verra, je sais pas. Enfin, je peux pas vous dire ce qui se passera dans 10 ans, mais en tout cas, maintenant, oui, là, c'est fini.
C'est une exposition qui, on voit un certain nombre de vos planches qui retracent votre parcours sur plus d'une dizaine d'années. On voit des planches notamment du combat ordinaire, du retour à la Terre et de vos bandes dessinées autour de la question des super-héros. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir tout ce travail exposé sur une dizaine d'années comme ça?
C'est très étrange. Parce que, je suis pas très, très regardant avec mes originaux, donc ils sont en général dans des caisses chiffonnées et tout. Donc les galeries sont venues et ont fait un travail ils sont pas rangés par album, pas rangés par page, donc ils ont fait un travail énorme. Et puis je trouve ça en règle générale assez moche ce que j'ai fait avant, donc j'étais pas très... Et puis, honnêtement, le fait de voir tout ça dans un beau lieu, sous des beaux cadres, ah, je me suis dit quand même, c'est pas si mal. Et puis on voit quand même une évolution, même s'il n'y a pas tout mon travail, il y a toute la partie
rêveur,
tout ça, c'est toute la partie plus moins vendable et pas tellement exposée. Donc voilà, c'est très étrange, mais en fait, pour tout dire, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que je trouve l'expo très belle, mais que les originaux s'en aillent, c'est pas du tout un problème pour moi.
Quoi. C'est derrière vous.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est des époques, c'est des moments, c'est des intensités de travail qui sont plus d'actualité, donc qui me correspondent plus maintenant, ou moins.
Une des particularités de cette exposition, c'est qu'on a une exposition qui dit adieu au papier, c'est-à-dire à la forme du dessin sur papier. Pour parler de ce sujet-là, je vous propose qu'on écoute une archive, Claire Bretéché.
Je suis beaucoup intéressée au traitement par ordinateur, évidemment, parce que j'ai des amis qui travaillent à l'ordinateur, et pourquoi pas ? C'est une bonne formule, quand on sait s'en servir, c'est un bon instrument, mais le problème, d'abord, c'est que c'est pas le même geste du tout. Alors, on a le programme artiste, par exemple, vous savez, qui permet d'utiliser tous les instruments possibles. Vous choisissez votre pointe, l'épaisseur du trait, la variation du trait. Enfin, bon, c'est quand même incroyable, ces programmes. Et puis, vous faites votre dessin sur l'écran, mais en regardant l'écran. Alors, en fait, l'accident, si vous choisissez un instrument qui crée un accident de trait, ça reste quand même un accident programmé, alors que votre trait à vous... L'accident est programmé par vous jusqu'à un certain point, mais il y a toujours un accident supplémentaire qui intervient. Oui. Et s'il n'y a pas ça, l'intérêt de faire un trait devient beaucoup moindre, à mon avis. Alors peut-être c'est parce que je suis trop vieille pour maîtriser ça que je dis ça, mais j'ai des doutes, parce que j'ai bien fait le tour de la question et je ne vois pas du tout... En BD, à quoi ça sert de travailler en ordinateur? D'autant qu'il y a tellement de possibilités. La BD, c'est un moyen d'expression simplissime. Et si on complique trop la chose, on détériore la qualité la simplicité de cette expression-là.
C'est la voix de Claire Bretéché dans À voix nue, une archive de France Culture de 1996. Et pendant qu'on l'écoutait, Manu Larsenet, vous avez dit « elle a tort ».
Alors, déjà précisons les choses, je suis un très grand admirateur de Claire Bretéché. Vraiment,
sur
un dessin qui, moi, me fascine. Son dessin me fascine, mais je suis absolument incapable d'aller dans là où elle va. Mais oui, je dis qu'elle a tort parce que, en fait, il ne faut pas penser à l'informatique comme comme une fin en soi, c'est un outil, c'est juste un outil. Et tous les outils, on les bricole. Il tient qu'à la personne qui veut essayer de bricoler les logiciels, de les modifier, de partir par exemple de scans qu'on a fait soi-même sur du papier pour donner des textures ou trouver faire soi-même ses propres pinceaux. Tout ce qu'elle dit est vrai dans un sens, mais maintenant, aujourd'hui là, je parle pas d'il y a 10 ans, hein, il y a des possibilités maintenant qui sont offertes, qui sont quasiment du papier, c'est-à-dire qu'on peut refaire maintenant quasiment exactement ce qu'on pouvait faire sur papier. Mais là où je suis en contradiction avec elle, c'est que il n'y a pas 25 manières d'utiliser un pinceau. Enfin, on va dire qu'il y en a 25, d'accord ? Mais il n'y en a pas 60 000. Là, sur un outil numérique, je peux le modifier de 500 000 manières possibles. Donc l'accident qui, moi, me tient à cœur exactement comme elle, qui lui arrive, elle, au pinceau, moi, elle m'arrive avec le même pinceau sur ordinateur. C'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que cet accident, au lieu que ça me crée un problème sur ma planche, parce qu'il faut que je le découpe, il faut que je le recolle, blablabla, là, c'est fait en 3 secondes et demie. Puis aussi un truc qui me... C'est toujours... plusieurs lecteurs m'ont dit « Mais faut pas abandonner, vous êtes un traître et tout. » Si, un traître.
Ah oui, carrément. À ce point-là.
Je me dis quand même, c'est marrant d'exiger de nous qu'on reste dans des outils qui existent depuis la grotte Chauvet. Donc il y a 40 000... Alors, je suis un turé fier de l'art pariétal, donc j'adore la grotte Chauvet, mais c'est vrai que c'est du fusain. Aujourd'hui, on a encore du fusain, quoi. Il est bien aussi d'explorer ce qu'on a sous la main, ce que l'époque nous apporte, pour ne pas se lasser. Moi, c'est ce qui m'ennuie, c'est j'ai peur de me lasser. À un moment, pendant une dizaine d'années, j'ai dessiné exclusivement au pinceau. Au bout d'un moment, ce pinceau, je le connaissais tellement par cœur que je lui faisais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que l'accident était éliminé. J'avais tellement travaillé pour avoir ce magnifique trait que je voulais, blablabla. Et ben voilà, l'accident avait disparu. Alors que avec l'ordi, il suffit de bouger un petit curseur et paf, vous avez un accident incroyable que vous pouvez garder, copier-coller dans un autre coin, pour faire un buisson, pour faire un... C'est tellement vaste que c'est comme j'arrive à la frontière, là, au bord de la jungle. Là, je suis en train de rentrer dans la jungle, quoi.
C'est vraiment juste un nouvel outil pour vous. Il n'y a pas de révolution numérique au sens où on en parle par ailleurs.
Pour la construction des livres. Pour la construction des images, pour la construction des pages, ça ne change strictement rien. C'est pas parce qu'on travaille sur ordi que la perspective, que les lois de la perspective ont changé, que les lois de la couleur ont changé, que les lois de la composition ont changé. Donc ça n'est juste qu'un outil. C'est par exemple quand on passe du pinceau à la plume, c'est pareil que quand on passe du pinceau à l'ordi. Sauf que peut-être, étant peut-être d'une génération un tout petit peu plus récente, je suis plus habitué. Moi, j'ai commencé assez tôt à par exemple faire les couleurs sur ordinateur. Donc je maîtrise assez bien l'outil. C'est peut-être la différence avec Claire qui peut-être le connaît pas assez bien, mais je comprends ce qu'elle dit, je comprends ce qu'elle veut dire.
Après, c'est une archive qui datait de 96, et je pense qu'à l'époque, elle parlait de tablette, où justement la distance entre la tablette et ce qu'on voyait sur l'écran était plus grande.
Ah, c'est d'accord, j'avais pas pigé ça, d'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, les tablettes, elle disait, on dessine sur l'écran, donc c'est des tablettes pro. C'est pas, on dessine pas sur une tablette en regardant l'écran qui est devant soi. Ça, c'était affreux, ça. Alors ça, pour le coup, c'était affreux. Mais j'ai tout testé, hein. Tout ce qui est sorti, je les ai achetés et tout. Et c'était nul jusqu'à je donnerai pas la marque, mais jusqu'à récemment, où là, il y a un outil qui est sorti qui est absolument phénoménal. Mais c'est vrai que, et par exemple, il y a un truc qui était très énervant avant, c'est ce qu'on appelle le lag. C'est-à-dire quand on pose le stylo, il part pas immédiatement. Et mine de rien, quand vous êtes un pro du geste, quand c'est le geste et votre métier, quand ça part un quart de milliseconde trop tard, voilà, c'est pas ce que vous vouliez. Donc ça, effectivement, c'était, on pouvait pas travailler avec ça. C'était impossible. De dessiner, on pouvait faire des couleurs, on pouvait essayer des trucs, mais on pouvait pas dessiner avec ça. Bon, maintenant, les progrès ont fait que on peut largement dessiner. Il y a plus de lag. Quand on pose le stylo, c'est direct. Il suffit de bien régler ses mains, toutes les petites options, et puis on le fait à sa main, quoi.
Et vous avez aucune nostalgie par rapport au papier ?
Au papier, si. Aux outils, non. Le papier, c'est vrai que j'aime
la matière.
Bien. Le problème étant que les plus beaux papiers coûtent un bras. Faut dire les choses comme elles sont. Et que je suis pas tellement professionnel. C'est-à-dire que je rate beaucoup. Donc, donc ça me coûtait très très cher en papier quand il fallait découper une case, remettre. Enfin bon, c'est. Et puis ça m'amuse plus, voilà, ça m'amuse plus. Un jour peut-être, j'aimerais bien refaire des très grands formats en papier, par exemple peut-être pour une expo ou un truc comme ça, mais pas en bande dessinée. La bande dessinée pour moi maintenant, comme c'est un art de répétition, mais vraiment un art de répétition au sens le plus énervant du terme. C'est-à-dire parfois...
La loi des séries.
Voilà, il y a quelque chose d'énervant à refaire 4 fois un dessin très proche, comme dans un dialogue par exemple. L'art, c'est la peinture, c'est une image. Nous, on fait un art particulier, qui est un art fait de répétition, qui est donc, par essence, assez saoulant, si on regarde bien. Et l'ordinateur permet, parfois, de faire des copier-coller, et pas se casser à redessiner. Moi, je me sers rarement du copier-coller, du dessin fini. Mais par contre, quand je fais un crayonné qui me plaît bien, j'en fais un copier-coller dans un autre, je le déforme et tout ça, et après, j'encre par-dessus. Il est rare que je fasse un vrai copier-coller de toute l'image finie. Mais par contre, c'est extraordinaire pour tout ce qui est le crayonné, la préparation, comment on va mettre les masses dans les choses. C'est parfait, quoi. Ça se fait en 5 minutes.
Il n'y a pas un aspect dans le fait de travailler sur un outil numérique, justement, de se dire que le travail peut être infini sur un dessin ?
c'est un peu terrifiant en fait, parce que justement on plonge, on peut faire des loupes tellement énormes qu'on plonge dans des détails qui sont pas nécessaires. Et ça, pour l'instant, j'ai pas réussi à contourner la chose. Je suis pas encore à l'aise assez avec pour simplifier. J'ai tendance à vouloir en faire des tonnes, donc ça va passer. C'est toujours pareil. Il faut un outil, ça s'apprivoise. C'est-à-dire, du premier coup, on peut pas faire un livre entier à l'ordinateur et qu'il soit bien. C'est pas possible. Il va falloir, comme pour le pinceau, apprendre pendant 5-10 ans, peut-être, avant d'arriver à quelque chose qui prendra en compte le fait, la spécificité numérique, et puis qui fera du dessin ultra classique, parce que c'est mon truc, avec des perspectives et des matières, quoi.
Et du coup, votre dessin, dans son état terminal, c'est plus une planche, c'est un fichier.
C'est un fichier, ouais.
Et qu'est-ce que ça change des choses pour vous ou pas?
Non,
du tout.
Non, mais je vous dis, je suis pas accroché aux originaux, je suis pas accroché à la trace. J'aime bien quand je fais les dessins sur une tablette et puis après je monte tout ça sur ordinateur et c'est passionnant parce que je retrouve le métier pour lequel j'ai été formé qui est graphiste et qui est un métier que j'aime beaucoup et que j'ai pas eu l'occasion beaucoup de faire. Et là donc du coup je fais mes dessins en grand, en très grand et après je les recadre. Donc je fais encore un exercice graphique derrière le dessin. Et c'est passionnant. Bon, ça quadruple le temps de travail, mais je m'en fiche. Maintenant, je suis vieux, j'ai le temps, je m'en fous. Donc je peux vraiment passer du temps sur ces images. Mais, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est aussi un danger de passer trop de temps sur ces choses-là. Donc pour ça, il va falloir apprendre à...
À trouver le rythme propre de ce nouvel outil.
Voilà, c'est ça.
J'ai une question pratico-pratique, un peu idiote, mais vous n'avez pas peur des sauvegardes? Enfin, comme votre objet est un fichier...
Ouais.
On a l'impression que c'est plus fragile un fichier.
Ben ouais, c'est-à-dire que c'est
pour sauvegarder votre travail.
Alors pour sauvegarder le travail, moi je l'envoie à mon éditeur. Comme ça, je suis sûr que lui il l'a et que c'est des planches qui sont imprimables. Après, j'ai déjà perdu des pages. Bon bah je les refais quoi. Mais c'est comme le papier. Hein. Il m'est arrivé que mon chien
le papier n'était pas infaillible.
Mon chien bouffe une planche ou que mes enfants renversent de l'encre. Donc globalement, c'est kiff. Ce qui est assez le plus intéressant, c'est qu'il reste toujours une trace quelque part, soit sur le logiciel, soit sur la tablette, soit sur l'ordinateur. Il reste, si on cherche bien, il reste toujours une trace quelque part où on peut commencer à reconstruire. Ce qui est peut-être encore plus pratique que quand on a renversé une bouteille d'encre entière sur une page. Quoi.
Je peux pas prendre mes lecteurs pour des idiots, parce que en réalité, je travaille pas pour les lecteurs, je travaille avant tout pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est faut que ça me convienne à moi, enfin, c'est-à-dire, je travaille pour moi, et c'est un coup de peau que ça plaise aussi au lecteur.
Et ça ne te gêne pas que les gens interprètent ce que tu penses d'une façon ou d'une autre?
J'ai jamais remarqué que des personnes avaient dit « Pourquoi vous mettez toujours un petit crocodile en bas de vos plans ?» alors que c'est une coccinelle. Elle se marre. C'est un très bon public.
Et ça t'arrive de relire tes anciennes bandes dessinées?
Oui. Disons que ça me fait marrer parce que je me dis oh qu'est-ce qu'il est con ce mec là d'avoir des conneries pareilles, et puis après il y a peut-être un côté jubilation aussi parce que c'est moi-même qui l'ai fait. Alors il y a un rire au deuxième degré qui provient du fait que c'est moi-même qui me fait rire, ouais, on n'en sort pas.
C'est la voix de Gottlieb, une archive de 1973, l'émission Court-Circuit. Comment vous la recevez cette parole de Gottlieb, Manu Larsonnet?
Alors déjà avec beaucoup d'émotion parce qu'il est mort il y a pas longtemps et ça a été moi la personne qui m'a engagé à Flux Glacial. Ça a été donc le type qui m'a fait confiance, qui m'a lancé et surtout avec qui on a eu de nombreuses discussions sur la bande dessinée. Il a raison dans un sens, c'est-à-dire qu'il faut pas, enfin à mon avis, hein, ça c'est mon truc, il faut pas penser au lecteur quand on écrit. Il faut penser au lecteur quand on établit une narration pour pas le perdre, pour le garder. Pas pour lui plaire, mais pour que ce soit le plus lisible possible, pour pas qu'à un moment il dise « Ah, j'en ai marre, je comprends rien, paf, je jette ». Non, il faut... Moi, je pense au lecteur uniquement à la narration. Par contre, quand je cherche des sujets et que j'écris des dizaines et des dizaines de pages pour après les mettre en bande dessinée, jamais, à aucun moment, je pense au lecteur. Et quand il dit ça, je sais pas s'il le dit pour se plaire à lui ou surtout pour pas se plier à une forme d'autocensure vis-à-vis du lecteur. Je sais pas comment il l'explique quand il dit je le fais pour moi et pas pour le lecteur. Mais globalement je suis assez d'accord avec lui. Mais on avait des grosses discussions avec Gottlieb. Par exemple, il me reprochait de faire des choses, d'avoir obliqué vers des choses sans humour. Il me disait, mais là, vous essayez de faire de l'art. Ouais. Il me disait, vous essayez de faire de l'art, vous essayez de faire de la bande dessinée un art. Et lui, il tenait absolument à que cet art reste mineur. Et un art, il disait pas prolétaire, mais enfin, voilà. Et on n'était pas d'accord. Moi, je pensais qu'il fallait élargir le truc, mais on a eu des discussions non plus finales, puis je me faisais engueuler. Il m'a corrigé mes pages. C'est quelqu'un qui m'a corrigé mes pages d'une manière incroyable.
Il corrigeait le trait?
Non, pas le trait, la narration.
La narration.
Quand il butait sur quelque chose, il mettait un petit post-it sur la planche et il disait, là, il y a un problème. Et c'était toujours à moi de trouver le problème. Et il avait toujours raison. Il y a deux personnes, il y a Jean-Yves Ferry aussi, hein, avec qui je travaille, qui ont, mais alors, d'une manière incroyable, toujours raison quand ils pointent un problème souvent de narration. Donc, c'était des gens sans prix. Gottlieb, c'était un volcan d'anecdotes sur le métier et puis de regard sur son propre travail à lui. Quand il me disait, mais moi je suis nul, je fais pas de décor, j'aimerais bien en faire, mais bon, j'y arrive pas. Donc on sentait une sorte de frustration, même si, comme c'est quelqu'un d'assez bonhomme, il s'était allé pas dessus. Mais on a eu des discussions où je sentais poindre un malaise par rapport à son dessin. Peut-être à certains moments, j'ai cru comprendre qu'il était peut-être pas, il se trouvait pas assez fort. Pas assez impressionnant par rapport à Moebius ou je sais pas qui eux explosent à la tête des gens parce que c'est très très beau et très ceci et très cela. Mais il a été tellement important que peu importe les décors, on n'a rien à foutre.
Une des particularités de Gottlieb, c'est qu'il a aussi pas mal fait d'autoportraits. Oui. Et comme vous, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la question du fait de se représenter soi-même?
Ah, ça c'est un vieux truc, je saurais pas exactement dire à quoi ça tient, mais il y a un... On travaille seul. Moi, je travaille seul. Je suis pas en atelier. J'ai même quasiment pas d'amis dans le métier. Enfin, je travaille seul. Il y a dans cette solitude-là. Quelle était votre question déjà?
La question de l'autoportrait, le fait de se représenter.
Oui. Dans cette solitude-là, il y a des moments où il faut se raffermir l'ego. Parce que quand on est tout seul et qu'on travaille, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien ou si c'est ceci ou si c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me mets en scène d'une manière ou d'une autre, ce petit personnage qui est quand même fictif parce que jamais je me raconte exactement comme
Puis il s'appelle Manu Larcinet.
Alors, dans Le Retour à la Terre, j'étais aussi... Enfin, en gros, dans Blast, c'est moi aussi. Dans le Combat Ordinaire, c'est moi aussi. Mais c'est une version romanesque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui me permet de dire des choses absolument véridiques que je pense, mais qui me permet aussi de parler de choses... d'une manière avec laquelle je serais pas d'accord forcément. Ça me permet de montrer divers points de vue et pas que les miens. Alors c'est pour ça que j'aime bien me représenter, mais j'aime pas me représenter comme si c'était moi exactement.
Ça ouvre un spectre.
Ça permet de dire des choses que là en ce moment je suis en train de faire un truc comme ça et à chaque fois que j'écris un truc choquant, je me dis tu peux pas mettre ça. Les gens vont dire que t'as dit ça. Alors que si je change le nom et que je m'appelle plus Manu Larcenet, hop, là je peux l'écrire sans aucun problème. Si je dis un truc très très choquant, là je vais pas m'auto-censurer. Tandis que si c'est moi qui le dis dans mon nom propre, je vais pas oser.
Est-ce que vous pensez que les nouveaux outils numériques dont on parlait tout à l'heure, ça va changer quelque chose dans la production de la bande dessinée, éventuellement?
Alors, quand on l'utilise de manière industrielle, oui, évidemment, ça va permettre de faire des... ce que j'appelle les séries trous noirs, comme les mangas, 150 tomes, parce que c'est tellement facile
de
tricher avec, c'est-à-dire que vous faites, je sais pas, 15 décors, et puis vous vous contentez de les copier-coller, comme souvent les nouveaux mangaka font, enfin pas tous, hein, mais les plus grand public. Bon, bah c'est toujours les mêmes décors qui sont copiés-collés, quasiment toujours les mêmes personnages, ils doivent avoir une bibliothèque. C'est ça, le problème, c'est qu'on peut faire des bibliothèques de tout. Donc je peux dessiner 150 fois le même personnage et puis après le mettre sur des décors différents. Ça, c'est le côté, moi, m'intéresse pas. Mais c'est vrai que pour la production, en tant que... voilà, production, oui, évidemment, c'est très pratique et ça va aider beaucoup de gens à produire plus de livres. Mais
Et dans votre pratique à vous?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'essaie de faire plus de qualité. Comme j'ai un outil dans lequel je peux plonger au cœur de l'image, j'essaie que mon image, maintenant, soit beaucoup plus solide qu'elle n'était avant. Avant, je lançais un trait. Si ce trait n'était pas extraordinaire, c'était pas bien grave. Je continuais mon dessin. Maintenant, quand je lance un trait, j'attends de lui que voilà, il soit il soit bien quoi. Non seulement parce que je vieillis et que j'ai la prétention d'avoir un peu de métier, mais aussi parce que cet outil-là, il faut que j'arrive à le dompter quoi, à l'avoir en main. C'est pas très simple de passer du papier à ça, mais c'est passionnant en fait.
Vous diriez qu'il y a un progrès dans la bande dessinée et dans votre parcours ?
Comment, je comprends pas le sens.
Un progrès dans le trait, dans la technique de dessin.
Oui, c'est constant. Mais ça, je suis parti très bas aussi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'expériences en dessin. J'ai rarement dessiné deux séries de la même manière. J'ai toujours essayé de faire des choses différentes. Donc, j'ai jamais tellement approfondi tout, en fait. Et là, en vieillissant, au lieu de passer... Avant, je passais une journée sur une planche. Voilà, c'était mon rythme. Aujourd'hui, je passe une journée sur une case.
Donc, ah oui, c'est ça le progrès.
Enfin, on va dire sur deux cases pour faire une moyenne. Mais c'est beaucoup plus long, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire de travailler sur ordi, parce que il y a cette idée de j'ai tout en main pour que l'image elle soit parfaite, cadrée, machin, nickel. J'ai tout en main, je peux tout redécouper sans que ça se voit, remettre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, remettre du blanc, du noir, machin. J'ai tout ce qu'il faut en main. Mais du coup, comme j'ai tout, ça va beaucoup plus lentement parce qu'il faut essayer les choses, il faut tenter, il faut voir que ça marche pas, il faut revenir en arrière. Ça aussi, revenir en arrière, c'est un truc incroyable. On se doute pas, mais quand on a fait un gribouillis de 150 traits sur une feuille, bah c'est voilà. Après, soit on le couvre, soit on l'utilise, mais là, je peux d'un coup
revenir
sec revenir à la moitié. C'est des choses, on se rend pas bien compte comme ça quand on n'est pas du métier, mais c'est des choses qui font gagner un temps précieux et qui font surtout qu'on se déconcentre pas. Moi, quand je faisais du bricolage à découper d'autres cases pour les recoller, ça me déconcentrait, ça me sortait du récit. Maintenant, je suis sur mon écran et tout ce qui s'y passe est concentré. Même le bricolage est concentré dans la création. Alors qu'avant, le bricolage était un peu à côté.
Je venais à Paris parce que j'avais trouvé un emploi comme apprenti dans un studio de dessin publicitaire spécialisé dans l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai dessiné des emballages de biscottes, de café, j'ai fait des étiquettes de camembert. Mais j'ai appris le dessin de lettres. J'ai jamais fait de publicité après, mais ça m'a été utile quand même parce que tout sert dans le dessin. Il faut dessiner tout et n'importe quoi pour arriver à avoir un style, quoi, quand même. Donc, je travaillais la moitié de la semaine et l'autre moitié, j'allais à l'école Estienne, une école d'art graphique, où là, j'apprenais la mise en page, aussi surtout le dessin de la lettre. J'ai connu des grands créateurs de lettres. Ça n'existe plus maintenant parce qu'avec l'ordinateur, on peut trafiquer les lettres, vous savez. Mais il y a encore 40 ans, il y avait des grands créateurs d'alphabet, si vous voulez. Et ça, c'est admirable.
C'est la voix de Cabu, une archive de 2006.
Vous avez envie de me faire pleurer aujourd'hui ?
Ah non, pas du tout.
Gottlieb et après Cabu ?
Non, c'était pas notre intention. Comment vous réagissez à son propos quand il dit « tout sert dans le dessin » ?
Bah oui, enfin c'est... Mais c'est... En fait, Cabu, c'était un chercheur. C'était un type qui... Il y a des types comme ça qui ont un œil. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire qu'ils voient les choses et... d'une autre manière que nous, et arrive à les transcrire par des traits, mais alors avec une précision redoutable. C'est ça qui était incroyable chez Cabu, c'était qu'il n'y avait pas, ou très peu de crayonnés, pas de... Enfin voilà. Et il y allait direct, un peu comme Sempé. Et pour moi, en tout cas, c'est les génies qui font ça. Moi, je m'y reprends 25 fois, quoi. C'est du bricolage, moi, par rapport à eux. Et... mais Cabu... Enfin, Cabu, il a été à... pour moi, d'une importance cruciale. Parce que quand j'étais petit, j'étais un enfant malade, solitaire, perturbé, déséquilibré et tout. Et je regardais souvent Récréa 2. Et dans Récréa 2, il y avait une petite portion qui était réservée à Cabu. On voyait ce petit gars avec sa frange pourrie, là. Et puis surtout, cette sorte de timidité dans laquelle je me reconnaissais. Et puis on lui demandait, bah tiens, dessine-nous ça. Et on voyait un gros plan que j'ai plus jamais revu à la télévision quasiment, un gros plan d'une main avec de sa main avec le marqueur qui dessinait petit à petit, qui faisait des traits. Au début, on voyait pas bien, on comprenait pas bien où il voulait en venir, et soudain ça prend forme, et soudain ça prend une forme avec une expression incroyable, avec une vérité, une vie presque dans chaque dessin. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, inconsciemment je pense, je me suis dit, ça c'est une manière de parler, c'est une manière de communiquer. Et alors à partir de ce moment-là, j'avais 10 ans, j'ai commencé à travailler tous les jours, à lire mes bandes dessinées, à recopier les bandes dessinées, à essayer de m'intéresser au dessin le plus, intensément possible, parce que je me suis dit, c'est une manière de communiquer. Moi qui avais vraiment un gros problème de communication de base, ça me permettait de faire rire les copains, de dessiner sur les cartables. J'avais une sorte, vous voyez, de statut différent des autres à l'école. J'étais le type un peu bizarre, mais qui dessinait sur les cartables, alors on m'emmerdait pas trop. Et surtout, il a été à la base de ma passion irréversible pour le dessin. Alors après, pour l'art, mais d'abord pour le dessin, au noir. Mais c'était un... J'étais, malheureusement, je l'ai connu moi quelques mois avant qu'il soit... qui meurt. Et il m'avait emmené dans son atelier et pendant 3 heures, il m'a sorti des dessins de Follet, des dessins, des vieux trucs du 19e, des gravures et tout. C'était un type qui s'intéressait à toute forme de graphisme. Il était incroyable. Et cet atelier était un capharnaüm sans nom. Je savais pas où mettre les pieds. Il y avait des maîtres, vraiment, hein, des maîtres de journaux, de livres d'art, de choses comme ça. Et il y avait au milieu de ce merdier, l'équivalent d'une feuille A4 sur une table où il y avait rien. On voyait qu'il mettait sa feuille là et qu'il était dans son merdier impliqué comme ça à faire ses petits traits. Et il m'a fait ce jour-là une dédicace. Alors, en plus, sans que je lui demande, ce qui est d'autant plus la classe. Et là, je l'ai vu dessiner. J'ai revu cette main. Cette main qui, contrairement à certains qui font des petits traits pour arriver à... Lui, il avait le trait sûr. Toc, il part d'un point A à un point B. Paf, il repart. Et je suis replongé dans mes 10 ans quand j'ai vu cette main dessinée là.
Ça n'avait pas bougé.
Non. Et il était encore plus fort. Il a jamais arrêté d'être plus fort, moi, j'ai trouvé. Il était de plus en plus fort. Au fur et à mesure où il voyageait, où il voyait des choses, j'ai l'impression que... Il m'avait montré certains de ses carnets de voyage. J'ai l'impression qu'il était de plus en plus fort. C'était pour moi... Pour moi, c'est l'archétype, si vous voulez, du vrai dessinateur. Du dessinateur qui fait du dessin un art, et non pas un truc de divertissement ou d'illustration. C'est un art. Chez lui, ce type-là est un artiste, un vrai. C'est pas comme... C'est pas un illustrateur, c'est pas un... Voilà, c'est un artiste total.
Il parle de l'importance du graphisme, justement.
Mais il a raison. Depuis hier, je suis à Paris. Je regarde donc un peu autour de moi et je ne vois que sur les publicités, les devantures, je vois des bonhommes bâtons. Je vois, vous savez, les trucs qu'on voit sur ordinateur, là, les petites images toutes faites. Je ne vois que ça, je vois plus de dessin. Alors parfois, on voit de la photo. Parfois, on voit... mais du dessin pur, il y en a très peu. Alors que je me rappelle, quand il y a encore 20 ans, on voyait sur les colonnes Maurice, pour les spectacles de théâtre ou de je sais pas quoi, pour certaines expos, on voyait du dessin, du vrai dessin. Et maintenant, c'est quelque chose qui a complètement disparu. C'est remplacé par des choses qui viennent de l'ordinateur, des petits clipartes, des choses comme ça. Et c'est d'une tristesse sans nom.
Ce serait un mauvais usage de l'ordinateur, du coup. Par rapport à celui que
par rapport à celui que je préconise, oui, bien sûr. Ben oui. L'ordinateur, c'est pas pour aller vers la facilité, au contraire. C'est pour aller vers quelque chose de plus dur. je connais par cœur la plume, le pinceau et le crayon. Mais par cœur, ça fait 35 ans que je fais ça. Et là, soudain, j'ai un cadeau qui descend du ciel et qui va me faire apprendre autre chose.
Merci.
Et de rien, Manu, c'est Arsenet. Moi, vous rigolez ou quoi?
Adieu au papier, l'exposition de vos planches, c'est à la galerie Barbier et Maton à Paris jusqu'au 15 septembre. Et j'ai vu, il y a un nouveau tome du Retour à la Terre qui est prévu.
Qui est prévu, ouais, début 2019.
Début 2019.
Précipitez-vous.
Un grand, un immense et un infini merci à l'équipe de rêve de la Grande Table d'été qui a traversé avec brio, humour et courage le mois d'août, les canicules, une ville désertée, un dégât des eaux, des tables rondes qui changent et des plateaux qui tournent. L'équipe de rêve, c'était Anaïs Isbert, Oriane Delacroix, Lila Bozès, Camille André, Antoscan Viudès et Anne-Alivia Marchaison. Merci, merci, merci. Merci à Alexandre Fougeron, alias L'Homme en Noir, qui était à la réalisation. Aujourd'hui, au son, c'était Kevin Boisseau. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert à midi pour la rentrée de la Grande Table. Et nous, on se retrouve quelque part autour de Par les temps qui courent. Pour réécouter la Grande Table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.